Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation. Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat.
C'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début de semaine. J'espère que vous avez passé un beau week-end. Marianne Paquette au micro pour cette émission de C'est bon pour la santé. Vous êtes sur les ondes de Canal M. Aujourd'hui, je pose cette question. Comment peut-on vivre avec une personne qui a une maladie mentale? Parce que lorsqu'une personne vit avec un trouble de santé mentale, souvent, eh bien, les premières personnes touchées, bouleversées par ce trouble-là, excepté bien sûr la personne malade elle-même, là, ce sont les membres de la famille immédiate, dont souvent des enfants, qui sont souvent une clientèle qui est un petit peu moins bien desservie pour différentes raisons, mais aussi les petits ben, ont plus de difficultés à comprendre c'est quoi la maladie mentale. Au Canada, entre 1 % et 3 % de la population vivrait avec un trouble de personnalité limite, c'est le sujet d'aujourd'hui, ce qui fait que des milliers d'enfants au pays vivent avec un parent touché par ce trouble qui est encore assez difficile à saisir, autant pour la personne malade que pour ses proches. Le livre « La maison des intempéries » s'adresse aux enfants. C'est un outil qui existe afin de mieux les accompagner. Lise Laporte, co-auteur de ce livre, également psychologue, responsable de la recherche au programme des troubles de la personnalité limite au Centre universitaire de santé McGill, sera là en deuxième partie de l'émission pour nous en parler davantage. Et puis d'abord, une rencontre avec Dr Jean Désy, un médecin poète, philosophe, bref, un soignant parce qu'il aime se désigner ainsi, qui sort de l'ordinaire. Il est également auteur du livre « L'accoucheur en cuissarde », invité d'honneur au Salon du livre de Montréal, qui débute ce mercredi. Docteur Jean Désy, bonjour.
Oui, bonjour.
On vous joint du côté de Québec. Il fait beau là-bas?
Oh, c'est novembre.
Docteur Désy, vous êtes l'auteur du livre « L'accoucheur en cuissarde », également invité d'honneur au Salon du livre de Montréal qui débutera ce 18 décembre. Également, vous êtes l'auteur d'une dizaine de livres, autant des essais, des romans, des récits. Et en plus, vous enseignez la littérature aux étudiants en médecine à l'Université Laval. Ce livre-là, « L'accoucheur en cuissarde », qui est justement publié aux éditions XYZ, vous avez voulu le dédier à vos étudiants. Qu'est-ce que vous vouliez leur transmettre à travers ce bouquin-là, Dr Désy?
En fait, j'ai écrit plusieurs essais, j'ai plusieurs textes depuis une dizaine d'années qui racontent des anecdotes de ma vie médicale, dans le Nord en particulier. Mm-hmm. Mais parce que j'enseigne en médecine depuis 16-17 ans à la Faculté de médecine à Laval, et parce que là, je vieillis, et parce que tout à coup, je me suis aperçu que j'avais quand même des anecdotes plus tragiques ou plus croustillantes, mm-hmm. J'ai eu envie, en pensant à eux, parce que je leur enseigne à chaque session, surtout les cours d'intégration, les cours cliniques aux étudiants des premières années, j'ai pensé plus directement à eux. Le mm-hmm. livre leur est dédié dans la mesure où il y a quelque chose de l'ordre de la pédagogie. J'ai voulu encore une fois raconter des anecdotes, mais j'ai ajouté des éléments un peu plus réflexifs suite aux anecdotes, comme si je m'adressais aux étudiants. J'espère mm-hmm. de tout mon cœur avoir touché un public plus large que les seuls étudiants en médecine, mais évidemment, en pensant à eux, il y avait un élément c'est comme si c'était le prof, le pédagogue qui avait envie de donner des éléments d'information ou de formation mm-hmm. Plus vaste. Donc, il y a toujours un danger important là, de moralisme ou de moralisation, mais j'ai osé y aller de certaines réflexions éthiques à partir des histoires que j'ai racontées.
Dans le parcours d'un médecin, Jean Désy, c'est quoi l'importance de la littérature?
Ben, en fait, moi, je suis plus convaincu que jamais de la nécessité des arts en général et de la littérature, mais d'une approche artistique si on doit soigner des gens. Je pense que l'univers des sciences, qui est extrêmement important à ce moment-ci, puis la médecine et d'obédience scientifique, là, jamais tant dépendu de la science et de la technoscience, puis jamais de ma vie, je remettrai ça en cause. Mais la médecine, parce qu'elle s'occupe des humains et a pour objectif de soigner, à mon sens, la nécessité de se préoccuper des arts et de la littérature. Donc, pour répondre à votre question, la littérature comme art est essentielle pour qu'on réussisse à vraiment soigner quelqu'un. On peut avoir une activité technique qui guérit même une fracture, mais soigner quelqu'un, c'est beaucoup plus que seulement se pencher sur, à son chevet pour un problème mécanique. Mm-hmm. C'est comme si on acceptait d'avoir une vision plus large du malade. Moi, ce que j'aime dire comme poète ou comme j'aime bien parler de la relation d'âme à âme. C'est impossible d'oser parler d'une relation d'âme à âme en dehors du religieux, là, même en contenant le religieux, si on n'accepte pas que la science et l'art doivent être compris pour vraiment soigner. Donc, l'art est pas moins important que l'art est pas moins important que la science. Pour être vraiment un soignant.
Est-ce que la médecine peut guérir ou soigner le corps et la poésie, la littérature soigner l'âme?
En fait, si on va vite, on pourrait toujours dire que tiens, la médecine scientifique soigne le corps, la poésie, la littérature et les arts soignent l'esprit.
Ouais.
La vision que j'ai de l'âme, moi, c'est celle de William Blake, là. La conjonction du corps et de l'esprit, c'est l'âme. Si on veut avoir une vision globale ou plus uniciste ou plus holiste de la personne humaine, j'aime bien parler de l'âme. Quand j'entre en contact comme prof de littérature ou de médecine avec mes étudiants, j'aime bien penser qu'on est en contact d'âme à âme. Donc, moi, je pense qu'il faut faire attention de cette dichotomie qui est la nôtre dans un monde très scientiste, très rationaliste. On aime bien scinder les choses. C'est plus complexe que ça. Oui. Et les véritables relations de soins, à mon sens, sont à la fois le corps et l'esprit réunis. C'est un peu compliqué, mais ça l'est pas tant que ça. En fait, quiconque s'est senti un soignant. Puis là, en même temps, j'ose dire que une mère de famille qui s'occupe de son petit garçon de 5 ans qui fait une mauvaise grippe est une soignante au même titre qu'un chirurgien qui sauve la vie d'un patient qui fait une appendicite aiguë. Il faut vraiment y aller avec humilité dans ce terme de soignant. J'aime finalement mieux le mot soignant que le mot médecin si on doit choisir des mots.
Est-ce que c'est l'écriture qui nourrit votre pratique en médecine ou votre pratique en médecine qui nourrit votre écriture?
Ça, c'est une bonne question. En fait, depuis plusieurs années, là, depuis 30 ans, j'ai vraiment eu envie de considérer que ma vie devait tourner autour du poétique.
Oui.
Et j'ai eu envie d'enseigner parce que ma vocation première, c'est d'enseigner. Donc, j'enseigne en littérature et en médecine. C'est certain que je pratique encore la médecine. Je me trouve chanceux de pouvoir la pratiquer dans le Nord. Je travaille à Waswanipi depuis 30 ans, mais plus, c'est là que je fais du dépannage depuis presque 10 ans maintenant, exclusivement. En fait, mon temps est partagé entre l'écriture, l'enseignement, la poésie, la pratique de la médecine. C'est certain que si je veux être franc, la pratique de la médecine ces années-ci nourrit mon écriture et fait en sorte que je ne suis pas trop pris au dépourvu pour avoir du temps pour écrire et pour participer aussi aux activités littéraires et poétiques. Ça, c'est pragmatique. Mais évidemment, je le pratique encore parce que j'y trouve mon compte et j'ai la chance, moi, de pouvoir aller dans le Nord et en même temps que je rencontre du monde que j'aime beaucoup. En fait, toute ma vie, j'ai été particulièrement heureux lorsque j'ai eu des contacts avec des nomades. Donc, j'étais heureux sur la Côte-Nord avec des Cayens, des Nord-Côtiers, mais depuis 25 ans avec des Inuits, puis depuis longtemps avec des Cris. C'est-à-dire que c'est finalement une espèce de relation très instable que j'ai avec le monde, là, de nomade. Mais c'est sûrement mon rapport à la poésie qui fait l'essentiel de ma vie ces temps-ci.
Oui. En quoi c'est différent pratiquer la médecine dans un grand centre, on pourrait penser à Québec, que dans le Grand Nord? Est-ce qu'il y a de grandes différences?
Bon, il y a des différences fondamentales, mais fondamentales. Il y a des différences de population, premièrement. Moi, je me suis aperçu en écrivant, en parlant, mais en écrivant, et en rencontrant aussi des Inuits qui sont très, très francophiles, qui parlent extrêmement bien français, des poètes Inuits, que mon âme était nomade. Donc, le Nord me permet d'avoir un contact de nomade avec des nomades, ce qui me facilite la vie. Il y a toute une, on pourrait en parler longtemps, des différences entre les sédentaires et les nomades. Le monde urbain dans lequel on évolue est un monde sédentarisant et sédentaire.
Oui.
Puis c'est pas une faute, c'est comme ça. Mais donc, l'autre élément fondamental, c'est que le Nord, moi, m'a permis de travailler avec du personnel infirmier qui joue le rôle d'omnipraticien. Et moi, je suis là comme médecin conseil. Quand j'y vais, même je suis moi-même omnipraticien, je fais le pont entre le Sud et le Nord, entre les spécialistes et les soignants qui sont des infirmières et infirmiers.
Ils sont sur
et mon
place,
rôle premier, c'est d'être là quand ça va mal, quand il y a un enfant qui ne respire plus. Mais c'est comme ça que je le vois. Donc, j'aime beaucoup ce rôle que j'ai à jouer, qui finalement me met en situation où je peux apprécier le travail sur le terrain d'un personnel qui fait un excellent travail. En fait, les patients du Nord sont pas moins bien soignés dans le Nord parce qu'ils sont pas vus par des médecins. Mm-hmm. Ça, c'est une considération qu'il faut pas oublier. C'est extraordinairement différent de ce qui se passe dans le Sud.
Oui.
Ben, dans le Sud, dans les grandes villes du Québec, comme ailleurs dans bien des pays. Mais il faut apprécier le travail de nursing parce que c'est un travail réellement médical qui se fait. Et moi, j'ai apprécié ça depuis toujours, depuis 35 ans. Là. C'est probablement avec ces équipes-là que j'ai le plus apprécié travailler.
Pensez-vous ou souhaitez-vous que l'accoucheur en cuissarde puisse plaire aussi à ces gens-là que vous avez soignés, rencontrés, dont vous vous êtes inspiré, c'est-à-dire les Innus, les Inuits, les Autochtones que vous avez rencontrés?
Bon, en fait, c'est certain que j'ai pensé à eux parce que j'en parle beaucoup, de certains patients Innus, des cris, des Inuits. C'est pas toujours drôle, il y a des choses tragiques. J'ose penser que Similis, ils vont pouvoir se retrouver. Je suis mal placé pour dire ce que j'espère ou non. C'est certain que pour l'instant, j'ai eu plus de contacts avec des lecteurs du Sud, avec des étudiants. J'ai justement une étudiante en médecine hier qui est une pianiste professionnelle qui vient d'entrer en médecine, qui me disait qu'elle avait beaucoup apprécié lire le livre. Ça me fait plaisir, évidemment. Je ne sais pas si un jour j'aurai il y a des Inuits qui me parleront du livre, peut-être. En tout cas, je ne suis pas trop inquiet parce que ces gens-là, plus que bien d'autres, ont un sens de l'humour qui est vraiment remarquable. Et ça compte pour la lecture de L'accoucheur à Cucerne.
Et les gens pourront vous rencontrer où dans le cadre de ce salon du livre, Jean Désy? Vous serez là quand?
Je vais être là à partir de mercredi soir pour le lancement du salon. Puis je vais être là le jeudi. Je participe à l'émission, puis on est de fou, puis on lit. Puis le vendredi, samedi, dimanche, dans l'après-midi, j'ai des tables rondes, puis je vais souvent être au stand de XYZ.
Ben moi, j'y serai le 20 novembre, Jean Désy, donc ça sera un plaisir. Je vais aller vous faire un petit coucou, c'est certain. Je le rappelle, vous êtes l'auteur de ce livre, L'accoucheur en cuissarde, également invité d'honneur, oui, du Salon du livre de Montréal. Ça a été un plaisir de vous parler aujourd'hui.
Ben, c'est moi qui vous remercie, puis à bientôt. Ça va me faire plaisir de vous voir.
Certainement, au revoir.
Bonne journée.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens? Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux? Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse? Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@buzevoix.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
Lise Laporte, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là.
Ça me fait grand plaisir.
Vous êtes psychologue, co-auteur de ce livre « La maison des intempéries ». C'est édité chez Midi 30. C'est co-écrit avec le psychiatre Ronald Fraser. Vous travaillez également du côté du Centre universitaire de santé McGill comme responsable de la recherche au programme des troubles de la personnalité. Et également, vous êtes chercheur au Centre jeunesse de Montréal et bon, plein d'autres choses qui ont nourri ce bouquin-là qui a été publié en 2013. Pourquoi, au départ, écrire un livre qui s'adresse aux enfants qui vivent avec un parent qui a un trouble de personnalité limite?
L'idée de venir d'écrire ce livre-là est venue parce que je rencontrais des groupes d'intervenants au Centre jeunesse de Montréal pour leur demander de parler des difficultés qu'ils avaient avec des parents qui avaient des troubles de santé mentale. Et durant les nombreuses rencontres que j'ai faites avec les intervenants, la majorité du temps, ils m'ont parlé de parents qui avaient un trouble de personnalité limite. Et il me disait régulièrement, constamment, mais comment on peut parler aux enfants du trouble de santé mentale, de ce trouble-là en particulier du parent? Et là, je me suis retournée vers mon collègue Dr. Fraser, puis je dis, si on écrivait un livre pour ces enfants-là. Donc, ce livre-là a été tout d'abord conçu pour les intervenants, pour les aider à expliquer aux enfants et pour parler aux enfants. Le livre aussi, bien entendu, est pour les parents. Ça peut être très difficile pour un parent de parler de ces problèmes de santé mentale-là. C'est peut-être encore plus difficile pour un parent qui a un TPL, trouble de personnalité limite, on peut dire ça plus rapidement, TPL, parce que souvent, les personnes qui ont ce trouble-là ne le comprennent pas vraiment. Donc, comment expliquer à son enfant quelque chose qu'on ne comprend pas ou que nous-mêmes, son conjoint ne comprend pas ou que la famille ne comprend pas? Mais tout d'abord, le livre a été écrit pour les enfants. Les enfants de parents qui ont un trouble de santé mentale sont souvent oubliés. Puis pourtant, ce sont ceux qui sont le plus touchés par la maladie mentale du parent. Ils vivent avec un parent qui a des difficultés quotidiennement. Et on voulait leur offrir un espace pour qu'ils puissent parler, poser des questions, comprendre. Parce que souvent, quand un enfant ne comprend pas, il va essayer de répondre aux questions comme il peut.
Par lui-même.
Par lui-même. Oui, oui. Et ses réponses ne sont pas toujours adéquates parce qu'il ne comprend pas et il va essayer de comprendre souvent peut-être oui. en se blâmant.
Mais pour un enfant, bon, le livre s'adresse aux enfants âgés entre 6 et 12 ans. J'ai l'impression, Lise Laporte, que pour un enfant, un trouble de santé mentale, peu importe, là aujourd'hui on parle de TPL, c'est inconcret. C'est difficile à saisir et justement, on va avoir tendance à mettre ça sur nos épaules, c'est-à-dire je vais modifier mon comportement pour plaire à papa-maman. Papa-maman est fâché parce que j'ai fait ça. Ce sont des réactions normales chez l'enfant qui vit avec un parent qui a un TPL.
Oh, c'est tout à fait normal et surtout qu'un parent qui a un TPL peut être parfois très imprévisible. Donc, si on fait quelque chose de bien, si on fait quelque chose de pas bien, la réaction de maman ou de papa, on ne peut pas s'y attendre, qu'est-ce que ça va être. Donc, on peut se blâmer pour des petites niaiseries parce que la maman va réagir de la mauvaise façon cette journée-là. Donc, oui, très souvent, là, les enfants se blâment pour les problèmes du parent. Et mm-hmm. très souvent, un enfant va essayer d'aider son parent ou de jouer un rôle auprès du parent là, qui...
Oui, de sauveur, par exemple. Sauveur, oui. Dans le livre « La maison des intempéries », on suit l'histoire de jumeaux, Marie et David, qui ont une maman qui a un trouble de personnalité limite. Et ils se demandent à un moment donné, je ne sais plus si c'est Marie ou David, qui dit « Ah, peut-être qu'elle a su, mais je ne sais pas comment, que j'ai une mauvaise note dans ma dictée et que c'est pour ça qu'elle est fâchée. » On voit aussi en les suivant qu'ils ont des réactions bien différentes face à la maladie de leur mère. Marie, la fille, va pleurer, tandis que David, petit garçon, va plutôt se taire, rester dans un certain mutisme. Il y a différentes réactions aussi, j'imagine, chez l'enfant.
Oui, l'enfant peut avoir toutes sortes de réactions. Et même au sein d'une même famille, là, deux enfants ne vont pas réagir de la même façon. Et quand on est un frère et une sœur, on peut s'en parler et on peut voir comment l'autre réagit. Quand on est seul... on pense qu'on est unique au monde à vivre quelque chose comme ça, qu'il n'y a pas d'autres parents qui ont des problèmes. Les enfants vont vivre de la culpabilité, de la honte. Les enfants un petit peu plus vieux vont vivre de la colère. Les adolescents sont souvent très en colère contre leurs parents. Ils vont passer à travers toute une gamme d'émotions qui vont changer aussi là, avec les humeurs des parents.
Dans le livre, vous encouragez, à travers cette histoire, vous encouragez beaucoup les enfants à aller chercher de l'aide vers d'autres adultes signifiants dans leur entourage. Est-ce que c'est quelque chose à répéter à nos enfants aussi?
Oh, absolument. Les enfants sont parfois gênés, ils ont parfois honte et ils ne veulent pas en parler à
ils
personne.
Ils sont en colère aussi, on le voit à travers l'histoire, sont en colère après leur mère, ces jumeaux-là.
Oui, ils sont en colère et... Et comme je disais, ils pensent qu'ils sont seuls. Donc, parler à un adulte qui est, on peut appeler ça un poteau de résilience, ça peut vraiment aider un enfant à passer à travers des moments très difficiles. On parle des fois, ça peut être un grand-parent, ça peut être un enseignant à l'école, un coach dans les sports, mais l'important, c'est de ne pas rester seul avec tout ce qu'il vit. Mm-hmm. pour qu'un adulte puisse l'aider à comprendre.
Oui.
Pour qu'un adulte lui dise un message qui est très important, qu'on dit dans le livre, c'est qu'il faut qu'un enfant puisse être un enfant. Et les problèmes des adultes reviennent aux adultes.
Pourquoi dans la maison des intempéries, vous avez illustré souvent l'humeur de la mère, qui a un trouble de personnalité limite, par une météorologue, c'est-à-dire la météo qui fluctue? Mm-hmm. Pourquoi ce choix-là, Lise?
Parce que souvent, les parents peuvent avoir des humeurs imprévisibles. Et on a voulu parler de la météo parce qu'on voulait parler de quelque chose qui est très difficile à comprendre avec quelque chose qui est beaucoup plus familier. Donc, On parle des mers, que quand on arrive à la maison, on ne sait pas si dans la maison ça va être ensoleillé ou ça va être une tempête. On parle de Marie qui, quand elle réagit à sa maman qui s'en va à l'hôpital, elle devient comme un glaçon. Elle n'est pas capable de réagir, elle garde tout en dedans. Tandis que David, de son côté, lui, réagit comme une petite tornade. Il est une tornade d'émotions, il peut être impulsif. Et on se disait que c'est une façon d'expliquer aux jeunes avec des mots plus familiers. Et on avait aussi un météorologue des émotions qui, un peu comme le météorologue va faire à la télévision, expliquer la météo, celui-là explique les émotions des enfants, l'émotion de la mère. Puis peut-être qu'on espérait en dessus de tout ça que un jour, on puisse parler des problèmes de santé mentale comme on parle de la météo, sans stigma, parler à tous les jours. Parler à sa maman, « t'as pas l'air d'aller aujourd'hui », parler de comment on se sent. Donc, il y avait un petit peu de ça aussi sous l'idée là, d'utiliser la météo comme... Comme analogie.
Bien, c'est parce que je pense que c'est ce qui caractérise beaucoup le trouble de personnalité limite, c'est-à-dire cette fluctuation dans les humeurs. Si on voulait là, décrire pour les gens qui nous écoutent, c'est quoi le TPL?
Oui, il y a, bien sûr, il y a la partie fluctuation des humeurs, mais il y a aussi beaucoup plus que ça parce que pour décrire le trouble de santé, le trouble de personnalité limite, c'est un trouble de santé mentale que l'on peut considéré de sévère.
Ouais.
Ce trouble-là a un impact sur comment la personne se sent, comment la personne se comporte, comment elle vit ses émotions et comment elle est en relation avec les autres. Dans la vie de tous les jours, là, ça veut dire que ces personnes-là vont avoir des relations interpersonnelles qui sont chaotiques, intenses, instables. C'est des gens qui ne savent pas trop qui ils sont. C'est des gens qui sont très sensibles au rejet ou à l'abandon, qu'ils soient réels ou non.
Ouais.
C'est des gens qui ont beaucoup de difficultés à réguler leurs émotions. Donc, quand ils sont en colère, ils sont vraiment en colère. Quand ils sont tristes, ils sont vraiment tristes. Donc, ils vont être submergés par des émotions intenses d'anxiété, de colère, de tristesse, de culpabilité. Et ces gens-là vivent des grandes distresses, beaucoup de détresse. Ils sont en grande souffrance et de stress. Et pour pouvoir apaiser leur souffrance, ils vont avoir recours à des comportements autodestructeurs. Donc, c'est des gens qui vont beaucoup s'auto-mutiler. Ils vont abuser de substances. Et malheureusement, dans plusieurs cas, ils vont faire des tentatives de suicide qui, dans 10 % des cas, là, vont être fatales. C'est des personnes aussi qui ont de grandes qualités. C'est des personnes qui ont de grandes compétences, mais malheureusement, ça peut avoir un impact sur leur parentalité, leurs difficultés et sur leurs enfants.
La grande question, Lise Laporte, est-ce que le TPL est héréditaire?
Oui, le TPL est héréditaire à 50 %.
Oh, quand même!
Mais comme dans beaucoup de problèmes de santé mentale, l'environnement joue un grand, grand rôle. Donc, si l'enfant qui a l'hérédité de son parent se retrouve dans une famille qui est convenable, il ne va pas nécessairement développer ce trouble de personnalité-là. Tandis qu'un jeune qui n'aurait peut-être pas l'hérédité, mais qui va se retrouver dans une famille chaotique, peut le développer. Donc, c'est une balance des deux. Et on peut aussi aider les enfants à ne pas développer ce problème-là.
En leur parlant, j'imagine, justement, en éloignant les stigmas, ceux dont vous parliez tout à l'heure.
Oui, il faut en parler. Il y a des outils qu'on peut donner même à des enfants plus jeunes. Comment... quand on est fâché, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand on est triste, en parler de... Le trouble de santé, le trouble de personnalité limite est un trouble qui a un bon pronostic. On peut aider les personnes qui ont ce problème-là et on peut aider leurs enfants.
Mais encore faut-il pouvoir l'identifier chez soi ou chez notre proche? J'ai l'impression qu'elle est là, la difficulté. On s'éloigne peut-être un petit peu de la maison des intempéries en abordant cette question-là, mais comment on peut aller chercher de l'aide si on a un doute?
Montréal est une des villes au Canada et peut-être dans le monde où est-ce qu'il y a le plus de ressources pour aider les personnes qui ont un trouble de personnalité. Il y a plein de cliniques spécialisées. Et c'est ça qui est important, c'est qu'il faut être aidé au bon endroit.
Oui, et au bon moment.
Et au bon moment. Ben, je pense qu'il n'y a pas de bon moment. On voit des personnes très jeunes qui vont se retrouver en clinique ou des personnes plus âgées qui se retrouvent chez nous à 60 ans. Mais il faut aller à la bonne place. Oui. C'est ce qui est important. Et l'identifier, les gens vont savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'ils réagissent trop à certaines situations et ils voient que les personnes autour d'eux sont inquiets.
Oui. Comment peut-on introduire la maison des intempéries auprès de notre enfant?
Je dirais qu'on invite, on dit à l'enfant qu'on aimerait lire, lui lire une histoire, prendre le temps de s'asseoir, prendre le temps d'écouter ses questions. Il y a une maman qui nous disait il n'y a pas longtemps qu'elle a lu ce livre-là avec son enfant de 6 ans, qui le lendemain lui disait « Maman, est-ce qu'on peut relire La maison des intempéries? » Ce qui est déjà beaucoup pour un petit enfant de 6 ans de dire le nom, qui est un peu complexe.
Pas simple, voilà.
Qui n'est pas simple. Et cette maman-là nous disait qu'une semaine après, l'enfant lui a dit « Maman, j'ai l'impression qu'il y a une tempête qui s'en vient. Oh. » Donc, ce petit garçon-là avait compris une chose très importante, c'est que les problèmes venaient pas de lui, mais c'était les problèmes de sa maman. C'était pas ses problèmes à lui.
Mais un peu comme la météo ou la température, on ne la contrôle pas, on n'a aucun pouvoir là-dessus. Donc, déjà là, c'est un grand pas de comprendre ça.
Oui, absolument.
Ce n'est pas la responsabilité de l'enfant. C'est un livre qui peut être lu par un parent qui est lui-même malade, par le conjoint, conjointe de ce parent-là, un thérapeute, un adulte signifiant, un enseignant. En terminant, il reste peu de temps, Lise Laporte. Est-ce que, le livre a été publié en 2013, est-ce que vous avez reçu des témoignages de familles qui ont vécu ces tempêtes-là et qui ont utilisé la maison des intempéries?
Oui, il y a la maman dont je vous ai parlé. Il y a beaucoup d'intervenants qui nous disent qu'ils ont beaucoup aimé et qui ont été très touchés par le livre. Il y a des intervenants de Norvège, de Chine, qui nous ont dit « Mon Dieu, on aimerait tellement avoir une traduction de ce livre-là. » Donc, les gens et les parents apprécient beaucoup pouvoir prendre le temps de lire ce livre-là avec leur enfant.
Bien, c'est un outil formidable pour une clientèle qui est peut-être un petit peu oubliée, c'est-à-dire les enfants qui vivent avec un proche qui a un trouble de personnalité limite. Lise Laporte, je rappelle, vous êtes co-auteur de ce livre-là, édité aux éditions Midi 30 avec Ronald Fraser, psychiatre également. Bien, vous êtes psychologue et responsable de la recherche au programme des troubles de la personnalité du CUSUM, Centre universitaire santé McGill. Merci beaucoup, ça a été un plaisir de vous rencontrer aujourd'hui, Lise.
Moi de même, merci beaucoup.
Rémi Hermoso, la mise en onde, qui est de retour avec nous aujourd'hui. Enchantée que tu sois là, Rémi. Marianne Paquette au micro, je vous souhaite encore un très bon début de semaine. Nous, on se redonne rendez-vous demain, 14h. D'ici là, portez-vous bien. Bye-bye.